autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Charles Pélabon à la réalisation pour décentrer notre regard. Aujourd'hui, nous interroger sur d'autres représentations du monde. Un monde devenu global et interdépendant dont le centre n'est plus l'Europe ni l'Occident. Pourquoi et comment l'Occident d'ailleurs s'est-il imposé comme le centre? Et pourquoi une autre lecture du monde, celui d'hier, d'aujourd'hui et de demain, est non seulement possible mais devenue nécessité en cette période de mutation? Comment rebattre de nouvelles cartes? Défi relevé par nos invités, les géographes Christian Grataloup et Gilles Fumet, dans un étonnant atlas global que nous allons découvrir ensemble autour de la question « Comment faire le portrait du monde ?» Bienvenue. Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Gilles Fumet. Bonjour. Merci. Bonne année à vous aussi, merci d'être en direct avec nous aujourd'hui pour partager toutes ces nouvelles cartes inédites du monde, une soixantaine qui sont autant d'angles de vue différents, ceux des géographes, historiens, démographes qui ont co-signé cet atlas global qui vient de paraître aux éditions des Arènes. Christian Grataloup, vous êtes professeur à l'université Paris Diderot, géographe, spécialiste de géohistoire, auteur notamment de L'invention des continents et de Faut-il penser autrement l'histoire du monde. Vous militez pour un décentrage de notre regard qui commence par de nouvelle représentation, celle de la couverture même de cet atlas global. Alors c'est pas tout à fait un globe, enfin si c'est un globe, mais c'est un globe en forme de cœur. Pourquoi ? C'est plus respectueux des échelles ?
Ah oui, dans une certaine mesure. Il y a un truc technique qu'on appelle les projections qui permettent de passer du rond au plat. Alors ça, c'est des trucs très compliqués sur le plan mathématique avec lesquels il faut pas s'encombrer et savoir qu'il n'y a pas de bonne projection. Pas de projection normale. J'insiste sur le normal parce que la plupart des gens ont tendance à penser que, bon, les cartes dont on a l'habitude avec le nord en haut, ce qui fait qu'on va de haut en bas, du nord au sud, avec l'est à gauche, l'ouest à gauche, pardon, l'est à droite. C'est ça, c'est la norme.
En fait, il y a pas de norme.
Non, il y a pas de norme.
Ça pourrait être dans l'autre sens.
Ça peut être le sud en haut, comme les Australiens aiment bien le faire. Ça peut être le nord au centre, comme on l'a beaucoup mis dans plusieurs des cartes de l'Atlas, parce que c'est beaucoup plus efficace pour représenter le monde. Donc il y a pas une.
Le nord au centre, ça fait que tout le reste est au sud, c'est ça.
Exactement. La périphérie, tout le bord de la carte. Et le sud. Tout simplement parce que le monde, c'est une boule, une sphère, et il n'y a pas de bord sur la surface d'une sphère. C'est une surface limitée, mais ce n'est pas une surface bordée. Donc, c'est un truc important. Alors, à partir de là, les cartographes, depuis le XVIe siècle, même avant, mais enfin, en particulier depuis le XVIe siècle, ils ont été très imaginatifs. Et parmi les cartes qui respectent bien les proportions, mais pas les formes, c'est toujours le problème, il y a des atlas en forme des planisphères en forme de cœur.
En forme de cœur, voilà. Alors,
et si on veut faire un peu chic, on dit cordiforme. Voilà, cordiforme. Alors, dans la première moitié du XVIe, il y en a eu plein. Puis après, on les a un peu oubliés parce qu'elles sont un peu bizarres. Mais effectivement, on lui a utilisé une fois dans l'atlas pour représenter le bonheur.
La géographie du bonheur, oui, la carte du cœur, c'est pas mal.
Voilà, tandis, mais effectivement, la mettre en couverture, c'était, je dis pas accroche-cœur, mais c'était plus accrocheur. Et comme c'est un atlas qu'on veut pour tous, pour tout le monde, il ne s'agissait pas qu'il ait l'air scolaire. Ça, c'était absolument essentiel.
Gilles Fumet, vous êtes géographe également, professeur à l'université Paris-Sorbonne et directeur de recherche au CNRS, spécialiste des cultures alimentaires, auteur notamment de géopolitique de l'alimentation et de manger local, manger global. Dans cet atlas, vous cartographiez nos assiettes, pas si mondialisées que ça, on va y venir, ou non canon de beauté, mais aussi nos déchets ou nos virus. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure du GPS, les cartes ont encore un bel avenir et beaucoup à nous apprendre.
C'est la question qu'on voulait poser, c'était de se dire, alors même que tout un chacun a la possibilité dans son outil de base qui est devenu le smartphone, de manier à la fois les échelles et les distances, de se promener sur le monde avec une facilité qui déconcerte ceux qui ont connu la période qui a précédé cette invention. Comment donc on peut imaginer que nos enfants, les jeunes qui découvrent le monde avec cet outil, vont-ils pouvoir comprendre ce le monde dans lequel nous vivions, quelle représentation nous avions à l'époque du globe, qui était effectivement la forme la plus commode pour résoudre les problèmes qu'a évoqué Christian il y a quelques minutes.
Et donc voilà, vous le montrez en carte et vous le montrez dans toutes les formes de cartes.
C'est-à-dire qu'en fait, les géographes se disent désormais que une des fonctions de situation de la carte est en quelque sorte utilisée par d'autres outils. Qu'est-ce que nous pouvons faire de notre savoir, et est-ce que ce rapport au monde, cet usage numérique, nous permet pas de le voir le monde autrement, de construire d'autres représentations.
Autour de la question comment faire le portrait du monde justement, et comment rebattre autrement toutes ces cartes, première piste de réflexion en forme de cartographie sonore avec le mix global et local de Charles Pélabon.
L'histoire globale, si elle doit développer un récit qui englobe la Terre, alors c'est peut-être la géographie qui lui en donnerait la forme.
La manière dont la carte du monde est faite dit déjà quelque chose sur l'histoire et sur la manière dont on pense les cultures.
Les cartes du monde sont-elles fausses ? Le problème, c'est pas c'est faux, c'est vrai. La question, c'est la question des représentations et des cartes mentales.
Si, par exemple, on mettait l'Afrique au centre d'une carte, on verrait les choses tout à fait autrement.
L'histoire de la cartographie, c'est une histoire qui est européocentrée. Nous avons choisi les cartes qui nous arrangeaient.
Un géographe, lorsqu'il a à faire une carte, eh bien, il ne peut pas se permettre de laisser des blancs dans la carte. Il doit y mettre tout.
Il y a eu des échanges depuis très très longtemps entre les peuples.
On est créolisé parce que nous sommes et mondialisés et locaux à des échelles diverses, européens, français, bretons, etc.
Les évolutions démographiques en Asie et en Afrique peuvent-elles bouleverser les cartes de l'économie mondiale ?
Les obèses se répartissent inégalement sur la surface du globe et pas nécessairement là où on le croit.
Le Danemark serait le pays où l'on est le plus heureux.
La Corée du Sud est un des paradis du bistouri. La chirurgie esthétique est un marché de masse.
Il y a à la fois une géohistoire de l'indice de prospérité, mais aussi des pollutions, une géohistoire des dangers.
Si vous découpez ces cartes, il y a l'histoire là, comme si elle n'était pas liée à l'histoire là-bas. Or, elle est liée, elle est toujours liée.
Il y a un mode de vie moyen, et quand tout le monde sera relativement riche, où les réserves de productivité seront-elles ?
L'Afrique, poubelle des pays développés.
Il y a un rapport entre nous et les autres.
Est-ce que le monde global dans lequel nous vivons, qui nécessite qu'on l'appréhende par une histoire globale, peut aussi se dessiner dans un atlas global ?
Question posée par l'historien Patrick Boucheron, co-auteur de cet atlas que vous avez voulu global, c'est-à-dire quoi, englobant l'ensemble de l'humanité, Christian Grattalou ?
Global est un mot très à la mode. Est très ambigu, c'est sans doute l'un expliquant l'autre. D'abord parce qu'il peut vouloir dire total. Donc l'idée que l'on parle de tout, ce qui n'est pas le cas du tout, puisqu'il n'y a qu'une soixantaine de cartes, ce qu'on a voulu en quantité limitée pour simplement en faire quelque chose d'utile, de pratique, d'utilisable, de, je dis pas qu'on met dans sa poche, il est un peu grand point, mais effectivement que tous peuvent aborder. Mais global est très à la mode aussi aujourd'hui pour dire mondial.
C'est ça.
C'est dans une certaine mesure un anglicisme, d'ailleurs, en français. On a entendu Chen qui défend la francophonie. Donc, pourquoi n'est-ce pas l'atlas mondial? Mais justement parce qu'il a aussi l'idée de totalité et d'autre part, l'idée que l'humanité, le monde, se regroupe, se développe autour, sur la Terre. Donc, global, c'est aussi la planète Terre. Et dans le contexte actuel, cette année en 2015, ça va être évidemment particulièrement marquant en France, mais dans le contexte de soucis de la planète, c'est évident qu'aujourd'hui, la compréhension de l'humanité et la compréhension de son histoire ne peuvent se faire sans être aussi celle de la planète Terre et de l'histoire de la planète Terre.
Voilà, donc l'histoire de la planète Terre, l'histoire globale qui ne s'oppose pas au local, en fait.
Ah, pas du tout, oui, il y a un mot à la mode, on le cite incidemment, qui est glocal d'ailleurs, qui est la combinaison des deux. Mais il s'agit de voir comment il y a à la fois combinaison et effectivement rivalité entre ce qui est plus local et ce qui est plus global. Et c'est pas nouveau, c'est de tout temps, mais aujourd'hui ça prend des formes particulières. Il y a une double page d'ailleurs auquel on a tenu, qui était de dire, mais plus c'est mondial, plus ça fabrique du local.
C'est-à-dire que les deux vont ensemble, les deux sont aujourd'hui l'échelle globale oui. Est incontournable comme l'échelle locale.
Je jouerais le vieil universitaire post-68 heures, j'aurais employé le mot dialectique, vous voyez, pour dire qu'il y a constamment interaction de, aujourd'hui, on a les mouvements identitaires. De grands problèmes, on peut constamment ouvrir le journal, voir les manifestations en Allemagne le lundi, par exemple, aujourd'hui. Ces moments identitaires sont des réactions à quelque chose qui est plus global. En l'occurrence, il s'agit d'immigration, mais pas simplement. Il s'agit de manifestations d'englobement dans quelque chose sur lequel on se sent petit, menacé, fragile, et on réagit en créant, en magnifiant, en imaginant même. Du local.
Parce que la mondialisation fait peur aussi, parce qu'on a aussi peur d'une uniformisation qui, au fond, en feuilletant cet atlas, on va le découvrir, n'est pas là. C'est pas une uniformisation.
C'est un fantasme, l'uniformisation, parce que justement, ça consiste à prendre, on va sans doute le voir beaucoup mieux avec Gilles Fumet tout à l'heure, à prendre dans l'alimentation des autres, mais aussi dans leurs vêtements, dans leur mode de vie, comme les autres l'ont pris dans le nôtre et continuent à le faire, tout un tas de choses qui nous permettent de faire des combinaisons qui n'ont rien à voir avec leur origine. Ce que l'on fait, ce que les Britanniques ont fait du thé, pour prendre une chose vraiment très simple, n'a rien à voir avec ce que les Chinois, les inventeurs de l'infusion de thé, faisaient. Et c'est quand même néanmoins quelque chose qui, par ailleurs, s'est mondialisé. Donc, on est tout à fait dans des combinaisons qui sont passionnantes, parce que c'est un monde qui fabrique constamment du neuf, et plus il y a de matériaux, plus on met en commun. Le global, c'est ça, c'est mettre en commun. Plus on met en commun nos billes, si j'ose dire, eh bien, plus on va pouvoir faire de choses nouvelles, d'innover.
Vous citez d'ailleurs, dans votre préface, le poète écrivain Édouard Glissant, chantre de la mondialité, qui rêvait de la créolisation du monde, opposé à l'uniformisation, un rêve de créolité que l'on partage sur RFI en musique avec David Walters, Same Song. En créole, s'il vous plaît.
Ensemble, même si nous pas qu'ensemble, we all sing the same song. The same old song. Pas ni problème, et puis ça nous y est. Et puis division qui fait société. Ça qu'a fait nous lion. Attends, nom nous. Nous qu'a tourné ça nous y est. Pour y tourner là nous y est. En bas c'est là. Complime les anges. Ensemble, même si nous pas qu'ensemble, we all sing the same song. Yeah, yeah. Ensemble, même si nous pas qu'ensemble, we all sing the same song. The same old song. Oh, oh. Yeah, yeah. Mm. Sorti différents côtés. Même chalet, même soleil là, nous pas ni même sang, nous ni même ballon. Ensemble, même si nous pas qu'ensemble, we all sing the same song. Yeah, yeah. Ensemble, même si nous pas qu'ensemble, we all sing the same song.
Same song, rêve de créolité sur RFI avec David Walters autour de la question comment faire le portrait du monde, un monde qui ne parle pas encore créole, mais toujours majoritairement des langues européennes. Christian Grataloup, c'est la carte page 119 de votre atlas global. C'est l'héritage de la colonisation, ça ?
Alors, le titre exact, c'est officiellement. Le monde parle européen, officiellement, car il s'agit des langues officielles. D'abord, c'est difficile de cartographier les langues dont on use, sans compter que beaucoup de gens sont multilingues. Mais les langues officielles sont extrêmement européennes. Et ce qui est amusant, et c'est ce qui valait le coup de faire une carte qu'on n'avait vu nulle part, c'était de montrer que finalement, quand on n'est pas loin de l'Europe, on ne parle pas une langue européenne. Parce que le monde arabe, le monde turc, le monde iranien, l'Inde, bon, on s'éloigne déjà de l'Europe, mais en fait, tous les le tissu des vieilles civilisations de l'ancien monde ont gardé ou rétabli leur propre langue. Même si, localement, par exemple, dans le Maghreb, on peut effectivement beaucoup parler le français, ou en Inde, l'anglais. Mais si on s'éloigne, faut d'abord penser que toute l'Amérique parle des langues européennes, sauf très localement des langues des peuples premiers. Mais c'est vrai en Australie, en Nouvelle-Zélande.
Il y a de l'Afrique un peu particulier avec
et
les,
voilà.
Et c'est ça,
vous
hein.
avez le cas plus particulier. La carte le traite d'ailleurs différemment de l'Afrique subsaharienne, où vous avez officiellement des langues portugaises, anglaises, françaises. Et en réalité, la plupart des gens ne parlent d'autres langues. Mais ce sont les langues officielles.
C'est voilà. ça. Donc différence entre les langues officielles et les langues réellement parlées. Tout cela bouge et tout cela évolue, comme on le découvre en tout cas dans cet atlas global. Autour de la question comment faire le portrait du monde, je vous propose de continuer à changer de regard avec un nouvel éclairage, celui de l'archéologue Jean-Paul Demoule. On l'écoute.
Ce qu'on appelle l'histoire globale, c'est effectivement décentrer notre regard et nous apercevoir qu'il n'y a pas que l'histoire de France ou à la rigueur l'histoire de l'Europe, mais il y a eu des états, des civilisations tout à fait comparables en Asie, en Afrique, etc. Et une des preuves qu'on est sur le bon chemin, c'est qu'il y a à toutes les rentrées scolaires des campagnes de presse qui disent on veut nous interdire de parler de Napoléon, de Richelieu, de Colbert, etc. C'est régulièrement ça revient chaque année, comme si c'était la vraie histoire et qu'il n'y en aurait pas d'autre de possible, alors que c'est que ça concerne 1% de l'humanité et pas beaucoup des terres émergées, et qu'on comprend rien globalement à l'histoire du monde, et encore moins à un monde globalisé, si on s'aperçoit pas que bizarrement l'histoire est globale depuis le départ.
L'histoire, notre histoire, elle est globale, évidemment, depuis le départ, Christian Grataloup, mais c'est comme si l'Europe, l'Occident avait monopolisé le terrain.
Il l'a monopolisé. C'est un élément qu'on a, sur lequel on a insisté, car aujourd'hui, il est un peu de bon ton d'être postcolonial, comme on dit, c'est-à-dire de minimiser, justement, en fait, du 16e au début du 20e siècle, la guerre de 14 remarquant la rupture, enfin, le début de la fin. L'histoire a été largement organisée à l'échelle mondiale par les Européens, d'où l'héritage linguistique dont on parlait pour les langues officielles il y a un instant. Mais dans
avant,
les faits,
il y a une autre histoire et une autre mondialisation.
Il y a plein d'autres histoires, y compris en parallèle, des histoires qui ensuite s'interpénètrent, se métissent, se créolisent. Ça, c'est tout à fait vrai, et que l'histoire telle qu'on la raconte, non seulement en France, mais telle qu'on a exportée en Europe, mais telle qu'on a exportée ailleurs, hein, ce type de récit. Je connais bien les histoires scolaires. L'ère latino-américaine, par exemple, elle est très euro-centrée. C'est une histoire très européenne.
Alors que l'on découvre, c'est la carte de l'Amérique avant Colomb, elle est signée, je crois, Emmanuel Lézy, page 24, que l'Amérique d'avant Colomb était très avancée intellectuellement.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, les mathématiques des Mayas, l'astronomie des Mayas avait des choses à apprendre aux astronomies les plus avancées, qu'elles soient arabes ou indiennes ou européennes. Effectivement, c'est une chose à ne pas oublier. Et en même temps, de ne pas oublier que les microbes de l'Ancien Monde, il y a une carte peu de temps après là-dessus, ont liquidé, ont vraiment été l'un des plus grands désastres humanitaires, involontaires d'ailleurs.
L'Europe a été contagieuse, mauvais sens du terme. C'est le titre.
N'importe quel peuple de l'Ancien Monde l'aurait été. Les Chinois... qui ont bien failli, au fond, être des grands découvreurs du monde, des grands relieurs, parce que découverte est un terme effectivement à éviter, ceux qui ont connecté les sociétés, ils ont entraîné avec eux surtout la pandémie, créé un bassin épidémiologique mondial. Et la globalisation des microbes, c'est effectivement l'une des histoires essentielles, c'est pour ça qu'on a tenu à ce qu'elle soit assez présente.
Oui, la globalisation des microbes, il y a un chapitre entier consacré à la peste noire de 1348.
Oui, c'est un fait frappant de ce que vous racontez, de ce que vous évoquiez sur l'histoire essentiellement européenne, jusqu'à présent, jusqu'à notre atlas. Il n'y a jamais eu que des cartes de la diffusion de la peste noire en Europe. Enfin, une grande Europe avec le Maghreb, la Turquie, mais pas loin. Elle voit qu'elle part de Chine, d'après les scénarios les plus plausibles aujourd'hui, et qu'elle traverse absolument tout l'Ancien Monde, parce que les microbes, ils parcourent toutes les routes, beaucoup plus vite souvent d'ailleurs que les marchandises ou les voyageurs. Et ces microbes, ils ont tué 30-40% de la population de la Chine, à l'Espagne et des grands peuples du Nord jusqu'au Sahara.
Aujourd'hui, il y a un seul bassin épidémiologique dans le monde, ça en plus.
Absolument, oui, oui. Alors là, on le voit d'ailleurs ensuite avec le H1N1, enfin, on le voit avec d'autres cartes aussi, mais aujourd'hui, nous sommes tous dans le monde du sida, d'ailleurs, pour prendre... C'est à partir de 80, à peu près, que le mot mondialisation s'impose, qu'on se met à penser beaucoup plus globalement, que les cartes changent, et c'est à ce moment-là aussi qui correspond à un moment pandémique important.
autour de la question comment faire le portrait du monde. On continue de le voir émerger sous nos yeux dans cet atlas global et entre nos deux oreilles. Ce sera juste après le flash d'info. À tout de suite dans 3 minutes. Vu d'ici, vu d'ailleurs, mais on ne sait pas si ici, pour quelqu'un d'autre, c'est pas ailleurs. Toujours. À tout de suite.
Mardi politique. Autour de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie résolument décentrée autour de la question « Peut-on faire le portrait du monde ?» Nous feuilletons l'atlas global des géographes Gilles Fumet et Christian Grataloup, nos invités sur RFI dans ce studio où nous recevions il y a peu un autre empêcheur de penser en rond, le philosophe Michel Serres.
Derrière vous, madame, dans ce studio, il y a une carte du monde. Et quand je regarde cette carte du monde, elle est centrée sur Paris. L'avez-vous remarqué ? J'ai une carte du monde chez moi qui se développe dans ma salle à manger et j'ai appris à mes enfants une autre manière de le regarder, je l'ai centré sur le Japon. C'est-à-dire que l'Europe est marginale. Et par conséquent, dès le moment où vous avez une carte du monde différemment, vous avez une autre vision, en effet, de la planète. Toujours décentrer notre regard.
Décentrer notre regard, c'est ce que vous cherchez dans cet atlas global, Christian Grataloup. Mais Michel Serres, il exagère un peu avec notre carte du monde sur RFI. Elle n'est pas que centrée sur Paris.
Mais je suppose qu'il était, quand il vous a parlé, il était assis exactement là où je suis. Parce que effectivement, quand je vous regarde juste à droite de votre tête, je vois Paris. Mais il suffit de tourner légèrement la tête pour s'apercevoir qu'il s'agit d'une représentation pratiquement cinématographique du monde. Puisque après l'Asie, j'ai de nouveau l'Amérique, puis de nouveau l'Atlantique, puis de
Donc
nouveau...
choisir son centre.
Donc en fait,
si on veut,
tous les centres sont possibles. Ce que je remarque quand même, c'est que c'est une projection Mercator très classique et qu'elle est orientée au nord. Et que d'ailleurs, tel que je comprends les propos de Michel Serres, c'était le cas aussi de celle qu'il avait dans sa salle à manger,
oui,
même
s'il
était centré sur le Japon. Mmh. Donc les Australiens ont mis une carte avec le même centre, le méridien 180 degrés, mais avec l'orientation au nord, au sud, pardon, ce qui change tout. L'Australie exactement à la position de l'Europe, en haut et au milieu. Et c'est un centre tout autant que
Chacun finalement veut être au centre parce que
le méridien de Greenwich, notre
heure universelle sur RFI, il pourrait aussi être
le méridien. Bien sûr, c'est un choix en 1884 purement diplomatique, mais qui matérialisait la puissance européenne et plus précisément britannique.
Alors aujourd'hui, le monde s'est décentré. Il faut donc repenser toutes nos représentations. Gilles Fumet, dans ce monde décentré, on sait que le Sud a souvent faim, mais que le Sud est toujours le garde-manger des riches, ça on le découvre dans cet atlas global. Carte page 66, le Sud est toujours le garde-manger des riches. Le Nord va se nourrir au Sud avec du café, avec du thé, avec du chocolat, mais pas seulement.
Alors, pas toujours, évidemment, l'idée qu'on a voulu faire passer sur cette carte, c'est que nous ne serions pas seulement les pays qui auraient la capacité à produire en masse des biens alimentaires, mais que à notre insu, nous consommons énormément de produits que nous sommes incapables de produire dans le Nord, tout simplement parce que nous n'avons pas le climat, les terres pour ça, et qui sont donc le privilège de la zone tropicale. Voilà. Et en particulier, donc, des choses que nous connaissons bien en géographie, parce que ce sont des produits qui ont beaucoup voyagé, le thé, le café et le chocolat. Hein. Que serait la vie dans les bureaux s'il n'y avait pas le café ? Essayons d'imaginer ce que serait la littérature au XIXe siècle, la comédie humaine de Balzac, si l'auteur n'avait pas bu 2 litres de café par jour. Donc on voit bien que il y a une part importante de ce que nous avons pensé, de ce que nous sommes, des modes de production que nous avons, qui sont liés à cette fourniture exclusive des pays du Sud chez nous. Voilà. Donc c'était un peu ça que nous voulions...
Et vous êtes vous-même géographe des habitudes alimentaires. Vous avez notamment dressé la carte, c'est page 128 je crois, des assiettes. Pas si mondialisées que ça, finalement. Ça, c'est assez étonnant, parce que dans un monde globalisé, mondialisé, on se rend compte qu'il y a différentes manières de manger, de se nourrir avec des modèles différents.
Oui, mais c'est vrai que nous avons beaucoup insisté ces dernières années à cause de la nourriture industrielle sur le fait que ce que nous mangeons était formaté à partir de canons nutritionnels et diététiques américains. En gros, c'était ça, c'était effectivement l'angoisse que nous avions encore lorsque José Bové démontait les McDo à Millau, hein, c'était de tous finir dans un fast-food pour manger. Voilà. Évidemment, tout ça c'est quand même un peu dégonflé, mais c'est pour dire que effectivement, il y a eu cette crainte avec l'offensive américaine dans les années 70 qui prend d'autres formes aujourd'hui, mais qui est toujours latente et qui rejoint, je crois, ce que nous avons évoqué tout à l'heure à propos de ce lien global local, c'est-à-dire que ce qui nous vient d'ailleurs, qui peut nous agresser, qui peut nous paraître agressif quand les Italiens voient McDo débarquer sur la place d'Espagne à Rome, eh bien ils se rangent derrière Carlo Petrini pour dire mais face au fast-food inventons un slow food, hein, entre autres, et essayons de voir ce qui se passe dans ces offensives. Donc
c'est des réactions en fait. On a peur de cette mondialisation quand ça nous arrive comme ça d'ailleurs.
On a peur de l'autre, simplement de ce qu'on connaît pas et puis de ce qui paraît extrêmement bien formaté, une industrie efficace, parce que quand même, même si parmi nos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les McDo, pour ne parler que de cela, combien sont-ils à avoir résisté à l'invitation de leurs enfants pour aller quand même goûter les frites au McDo? Donc il y a aussi cet aspect générationnel qui fait
c'est
que...
C'est ça, mais on voit quand même que donc ce modèle industriel US, alors vous dites que ce modèle c'est manger debout en fait. Vous avez un petit dessin sur cette carte. On peut manger debout à la manière des États-Unis, mais il y a d'autres manières de manger. Il y a à table, sur une table haute, sur une table basse, ou par terre. Il y a différents modèles.
Oui, on a découvert, je dirais un peu par hasard, lorsqu'on a ouvert une Sorbonne à Abu Dhabi, que dans la salle à manger, on pouvait disposer des meubles de manière différente, et on s'est aperçu un peu par hasard que lorsqu'on mettait un tapis, eh bien, on avait des Africains et des Indiens qui mangeaient plutôt par terre, que lorsqu'on avait des canapés avec des tables basses, on avait plutôt des Maghrébins qui se retrouvaient là spontanément, et que lorsqu'on avait des tables, on avait plutôt des Européens, et quand on avait des bars, on avait plutôt des Nord-Américains, des Allemands, des Suédois, etc. Et donc, on s'est dit, mais finalement, il y a un lien très fort entre la manière avec laquelle on se pense dans l'espace, les degrés de mobilité, la manière avec laquelle le corps va se préparer ce repas, parce qu'évidemment quand on est assis par terre on mange pas la même chose que quand on est debout, et donc qui va formater l'offre alimentaire. Voilà.
Et ça résiste en fait, ça reste. Donc dans un monde global, ce local là
Ce local-là, il résiste, mais on s'aperçoit que on peut très bien, quand on fait un voyage en Inde, être amené à manger par terre et découvrir au fond que c'est quelque chose qui est une expérience assez forte. Évidemment, partager le thé sur un canapé, dont je rappelle quand même que dans le monde maghrébin, le canapé c'est quelque chose qui est très proche du lit romain, cette époque où on mangeait beaucoup allongé. Et puis que évidemment, à l'occasion d'un voyage dans un aéroport, on prendra quelque chose debout.
Donc au fond, on peut tout faire finalement.
On peut tout faire.
Autour de la question, comment faire le portrait du monde donc dans toute sa globalité et sans oublier ni stigmatiser personne, je vous propose un nouvel éclairage. C'est celui de l'historien de l'Afrique médiévale François-Xavier Fauvel, qui a lui aussi contribué à ces atlas globales, notamment, je rappelle juste que son dernier ouvrage, Le Rhinocéros d'Or, histoire du Moyen-Âge africain, vient d'être édité en poche chez Folio. Et je vous propose de nous arrêter tout de suite avec lui sur la carte de l'Afrique en son âge d'or médiéval. C'est page 30 de cet atlas.
On pense davantage à l'Afrique comme un réservoir de merveilles naturelles ou animalières, on pense davantage à l'Afrique comme un réservoir d'épidémies ou de coups d'État qu'à l'Afrique comme terre d'histoire, comme lieu où les marchands et les produits ont circulé depuis des millénaires. Donc je dirais que là déjà, le coup de force qui est déjà réussi, c'est d'avoir banalisé en quelque sorte l'Afrique et de l'avoir sorti de son statut d'exception historique. Mon discours consiste à dire que la mondialisation existait déjà au XVe siècle sous une autre forme. Ce qui change, ce sont les modalités de cette mondialisation, et ce ne sont pas du tout les mêmes choses qui se passent au Moyen-Âge et qui se passent aujourd'hui. Un exemple assez simple, c'est qu'on voit aujourd'hui l'effet massif des investissements chinois, la présence d'investisseurs chinois ou les produits chinois un petit peu partout en Afrique. Je dirais que ces choses-là existaient déjà au Moyen-Âge. On retrouve des porcelaines Ming dans les tombes africaines du Moyen-Âge. Mais ce qui a changé, ce sont les modalités, ce sont les produits. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sont plutôt les produits de basse qualité qui arrivent en Afrique, c'est exactement le contraire qui est arrivé au Moyen-Âge, c'était les produits de plus haute qualité, les porcelaines destinées vraiment à l'exportation étaient les porcelaines de plus haute qualité. Donc ce qui a changé, ce sont les modalités, les formes de cette mondialisation et la façon dont cette connectivité s'opère entre l'Afrique et le reste du monde. Voilà, un autre exemple, c'est que le commerce d'aujourd'hui entre la Chine et l'Afrique se fait à la faveur de l'installation d'intermédiaires chinois en Afrique ou d'intermédiaires africains en Chine. La mondialisation médiévale, la mise en connexion de ces deux parties du vieux monde au Moyen-Âge s'effectue à des relais distants à travers toute une série d'intermédiaires et de seuils que ne franchissaient en général pas les marchands.
Il y a donc eu d'autres formes de mondialisation et notamment de multiples échanges entre le 8e et le 15e siècle sur tout le continent africain que l'on peut découvrir sur cette carte, dans cet atlas global, cette carte du Moyen-Âge africain, Christian Grataloup. Et il n'y a pas qu'en Afrique, mais ailleurs aussi oui. D'autres formes de mondialisation.
Oui, je remarquerai quand même que Moyen-Âge et africain sont deux découpages du temps et de l'espace typiquement européens. Vous voyez que ce n'est pas si simple de changer le point
et
de
oui,
vue.
Oui, qu'est-ce qu'il faut dire alors pour
comment faut-il dire
là,
oui, ben justement,
on sait, même pas, on a
tout
pas
à fait, tout à fait. Alors que François Xavier Fauvelmar est un formidable historien de l'Afrique et qu'il faut effectivement lire son Rhinocéros d'or, qui fait partie de cette merveilleuse littérature qui avait été initiée par un discours en 2007 à Dakar d'un président de la République française qui avait fait en immédiatement le plus grand mal et qui a au moins provoqué une des réactions prouvant qu'il y avait une histoire en Afrique et que l'homme africain n'avait pas attendu l'Européen pour entrer dans l'histoire. C'est formidable. Et ça, c'est effectivement cette double page, je le rappelle, hein, vraiment de manière très très importante. Ce qu'on ne voit pas dans cet atlas, mais que Fauvelmar est un spécialiste, c'est de lutter aussi contre l'afrocentrisme.
Ça, oui. c'est très important. C'est-à-dire une forme de réaction inverse.
Exactement.
Hein,
c'est-à-dire de tout ramener à l'Afrique et dire, en fait, c'est exactement, on fait exactement comme l'histoire européenne, mais tout est africain. Et les Mayas sont des Africains, les Olmèques étaient des Africains, etc.
C'est une sorte de réaction, finalement.
Tout à fait. C'est parfaitement compréhensible, mais en même temps, c'est faux scientifiquement. Et ça peut amener à des délires, absolument. Bon, c'est pas l'objet, effectivement, mais dire que décentrer n'est pas si simple, comme on l'évoquait avec le mot Moyen-Âge d'entrée, ça demande un effort intellectuel.
Oui, c'est ça. Soit on n'a pas les mots et puis il ne faut pas non plus trop simplifier.
Non,
construire ensemble.
Il faut construire des catégories de pensée nouvelles. Et ça, c'est le boulot des scientifiques. Hein. C'est notre job de construire une vraie globalité, de construire en fait de l'universalité à l'échelle du globe et non pas simplement de l'européanité étendue. Et ça, c'est un travail comme des gens. Amartya Sen, par exemple, me semble un très bon exemple de ce domaine.
Oui,
on s'est un peu éloigné de l'Afrique, sauf que ça me ramène à une chose.
On se rapproche de l'Inde et du coup, c'est pour voilà. dire qu'il y a aussi il y a une histoire en
quand
Inde,
il parlait,
il y a des penseurs
quand il parlait
en Inde
des,
ou en Afrique.
Quand Fauvelmar parlait des porcelaines chinoises en Afrique bien avant le 15e siècle, c'est pour rappeler que l'océan Indien a été la vraie Méditerranée. C'est-à-dire que dans les échanges qui existent à l'échelle de l'humanité entre le premier millénaire avant notre ère et le 15e siècle, c'est beaucoup plus l'océan, le nord de l'océan Indien, bien sûr, pas le sud, mais le nord de l'océan Indien, la Méditerranée étant le prolongement occidental, comme les mers de Chine en sont le prolongement oriental.
C'est le centre, il était dans l'océan Indien.
Voilà, la première mondialisation, les premières formes les plus anciennes, les routes des épices, c'est vraiment ça qui est les premières formes historiques de mondialisation, et la côte orientale de l'Afrique y participe pleinement.
Alors aujourd'hui, la côte orientale de l'Afrique y participe moins. Elle est pourtant très présente dans cet atlas. Alors il y a une carte assez étonnante sur laquelle j'ai envie de m'arrêter pour nos amis auditeurs qui apprécient tant le foot. C'est la carte sur le football français, Kaléidoscope identitaire. C'est page 80. Les joueurs africains sont nettement majoritaires sur cette carte, Gilles Fumet.
Ah oui, ça c'est une carte qui a été faite par notre collègue Pascal François pour rappeler que justement dans ces jeux globalisés que sont le foot et d'autres sports, eh bien les nationalités se mélangent considérablement et finalement ce qui relève de ce jeu comptable entre des pays, des équipes, des gens que l'on veut en quelque sorte faire jouer.
Voilà, oui, voilà. C'est ça.
Et bien ça n'a plus beaucoup de sens. puisqu'à l'intérieur même de ces équipes, on a des gens qui viennent d'un peu partout, et de ce point de vue-là, le football est absolument extraordinaire, un laboratoire qui permet de comprendre combien l'Afrique revient dans le jeu, en quelque sorte, par l'intermédiaire des équipes européennes dans lesquelles elle joue très fréquemment.
Alors l'Afrique revient dans le jeu, tous les continents reviennent dans le jeu, et d'autres manières, il y a aussi, alors là si on va très très vite, dans cet atlas, le monde qui se fabrique par ses villes, page 140, et par sa démographie. Là, on est vraiment dans un monde qui change énormément et qui se fabrique, un monde qui est devenu complètement urbain, avec des cartes qui, elles aussi, deviennent assez différentes.
Peut-être, on avait voulu que la dernière carte soit un feu d'artifice.
Elle est magnifique, la dernière carte. Il ne faut pas la décrire à nos auditeurs, on dirait un tableau.
Oui. Ce qu'il faudrait aussi, c'est l'expliquer. Elle n'est pas simple. Si on veut vraiment se plonger dedans, on sait que cette carte est très difficile à lire. C'est pour ça qu'on l'avait laissée à la fin. Normalement, c'est une sorte de dessin animé dont on a fait un peu la somme là, des villes qui grossissent et qui se déplacent en même temps que le monde s'est grossi. En fait, c'était ça, parce que c'est proportionnel au nombre des hommes. Et cette carte, effectivement, pose la question : le monde est-il une ville ? Une ville, je n'ai pas dit des villes, un réseau de
une
villes,
seule
une ville,
ville,
une seule ville.
Avec est-il en train de devenir une seule ville ?
Une seule ville, ce qu'on appelle d'ailleurs la métropolisation à des échelles plus locales, mais la connexion généralisée qui fait qu'on circule d'un aéroport à l'autre, d'une ville à l'autre. Évidemment, c'est une petite jet society qui représente cela, mais ça devient une sorte de grande ville mondiale. Bon, c'est poussé loin et ça peut aussi être assez une vision d'horreur de cela.
Mais c'est une projection
possible. Mais en même temps, c'est la densification, puisqu'une ville, l'auteur de cette carte aime bien dire que c'est à la fois la densité et la diversité, c'est-à-dire le maximum de richesse, de possibilités, d'ouverture, mais aussi de risques, de contacts, etc.
Autour de la question comment faire le portrait du monde, pour le meilleur et pour le pire, entre Inde et Afrique, nous arrêtons en musique avec Sushila Raman et Tama sur RFI. Sur RFI entre Inde et Afrique, autour de la question peut-on faire le portrait du monde vu d'ici et vu d'ailleurs, en sachant que l'ici de l'autre c'est notre ailleurs et vice versa. Je vous propose un dernier éclairage vu de l'Inde sur notre monde global, celui du géographe Christian Bruckert.
De l'Inde, de plus en plus on se sent faire partie du monde, c'est très important, c'est cette idée de cosmopolitisme, etc. Alors évidemment, c'est quand même surtout un phénomène de classe moyenne, urbaine, bien sûr. Il y a encore beaucoup d'Indiens pour qui le monde s'arrête au temple qui est à 200 km au nord, où on allait une fois, et on sait que la mer, il y a un truc qui s'appelle la mer qui existe quelque part. Dans une même région, on peut avoir des visions du monde complètement différentes, qu'on soit connecté sur Facebook, qu'on regarde les chaînes de télé états-uniennes, ou au contraire, qu'on n'ait jamais quitté son village. Mais de plus en plus, en tout cas, une certaine classe moyenne, on va dire, se sent véritablement faire partie du monde. Et puis l'usage de la langue anglaise fait aussi qu'on s'y sent intégré.
On se sent plus faisant partie de l'Asie ou faisant partie d'un monde?
Comment ça se sent avant tout faire partie de son état au sein de l'Inde. Alors d'abord en état moule. Ensuite, on est quand même indien. On est très fiers d'être indien, évidemment. On se sent pas vraiment faire partie de l'Asie parce que juste au nord, il y a le concurrent voisin encombrant chinois qui nous menace. On aimerait bien être aussi puissant qu'eux, mais on se rend compte qu'on est quand même encore ridicule par rapport à la Chine. Et ensuite, on a envie de se sentir faire partie d'une espèce de classe cosmopolite. On n'arrive pas forcément à lui donner un nom, hein. C'est pas forcément les États-Unis. L'Inde aussi est force de proposition, en tout cas construit aussi de la mondialisation à son échelle. Et ça, on en a conscience aussi de ce que l'Inde peut apporter dans ce grand concert des cultures.
Notamment dans l'informatique, dans le numérique.
Dans l'informatique, exactement. Et puis même culturellement, on veut proposer une journée mondiale du yoga, etc. Et le végétarisme aussi, d'une certaine façon. L'Inde est très fière de se rendre compte qu'ils étaient peut-être les premiers végétariens et que maintenant que ça devient un petit peu à la mode, ils ont peut-être un discours à apporter qui peuvent aussi impulser quelque chose qui n'est pas seulement un réceptacle qui va recevoir des influences extérieures.
Gilles Fumet, vous voulez réagir à cet éclairage sur l'Inde? Parce que là, vous ouvrez la carte de cet atlas global sur les canons de la beauté.
Oui, parce que on voit effectivement avec grande surprise, parce que le podium des Miss Monde, c'est quelque chose qui a été mis en place par les Anglais. Et l'Inde est en deuxième position. C'est-à-dire que quand on fait la totalité de toutes ces femmes qui ont été distinguées pour leur canon esthétique, eh bien l'Inde est derrière le Venezuela, numéro 2 quand même, c'est important. Et puis évidemment l'Angleterre ne pouvait pas ne pas être sur le podium puisque c'est elle qui avait initié le classement, mais on voit bien que là il y a quelque chose qui s'est tramé en quelque sorte entre la puissance coloniale et puis ce pays qui quand même sur l'autre carte que nous avons fait de la beauté a tendance à dissimuler ses formes, parce que si on fait une carte du surpoids dans le monde, l'Inde apparaît évidemment très largement en surpoids, mais l'idée même d'obésité en Inde, avec le vêtement large que portent les femmes, n'est absolument pas compréhensible comme aux États-Unis, qui eux ont imposé un canon extrêmement violent, on va dire, et qui donne à l'Inde finalement un certain recul par rapport à ce qui pourrait être jugé comme un fléau aux États-Unis.
Alors sur cette carte des canons de la beauté, il y a aussi la carte de la chirurgie esthétique, hein. C'est pas les mêmes.
C'est-à-dire que
au nord et au sud, on ne s'est pas opéré de la même manière et les mêmes endroits, on va dire.
Eh oui, quand on a essayé de se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a des canons de la beauté, la mesure que l'on pouvait avoir facilement, c'était celle des opérations de chirurgie esthétique. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, chaque continent, chaque sous-continent a sa propre obsession. En Amérique du Nord, on va refaire plutôt les seins. En Amérique du Sud, on va plutôt refaire les cuisses. En Europe, on va plutôt refaire autre chose, et on voit bien que finalement d'une région à l'autre, il y a quand même des effets de capillarité à partir de modèles qui sont lancés souvent par le showbiz, le musical, le cinéma, qui se diffusent, mais qui ne s'interpénètrent pas forcément.
Pas forcément. Alors carte des imaginaires suite, puisque dans cet atlas global, il y a toutes ces cartes de nos mondes imaginaires avec le cinéma. Et alors là, Christian Grataloup, on retrouve évidemment Hollywood, mais pas seulement, Bollywood bien sûr, et Nollywood.
Oui, il y a du cinéma africain. Il faut, à condition de ne pas voir le cinéma qu'on voit en salle ou diffusé sur des chaînes de télévision de grande écoute. Si on prend tous les films qui sont produits, c'est vrai que le Nigeria, sous des formes de vidéos qui se vendent sur les marchés, a une production absolument extraordinaire, et que l'on a un pôle qu'on sous-estime mais qui est extrêmement important et qui se diffuse particulièrement dans des pays où les normes occidentales sont difficiles à prendre pour soi. Cinéma tout à fait important.
Tout à fait différent, le monde se passe autrement ailleurs. On va s'arrêter aussi sur cette carte en forme de cœur, la carte de la géographie du bonheur. C'est la carte du bonheur, page 72. inégalement répartis et assez insaisissables, quand même.
Oui, vous savez, on dit que les Danois sont ceux qui se sentent les plus heureux. C'est évidemment très compliqué d'estimer le bonheur, déjà pour soi-même, alors a fortiori pour l'humanité. Mais si on prend des critères simples qu'on peut voir, effectivement, vous avez le fait que si la richesse ne donne pas le bonheur, elle y contribue, comme on dit. Donc, à partir de ce genre de réflexion sur la santé, mais aussi sur les sentiments de bien-être, on a effectivement une très grande inégalité dans le monde sur le bonheur.
Voilà. Alors vous imaginez justement en fin de cet atlas, un atlas heureux possible, hein, l'historien qui a participé à ce voyage qui imagine un atlas heureux possible, en tout cas ouvert, et ouvert à toutes les représentations possibles et à tous les futurs possibles, c'est quand même ça. Hein.
Il tient un peu pas les mêmes propos que Michel Serres, c'est-à-dire il faut décentrer. Il faut constamment changer de regard, changer le il y a pas de centre, sauf que nous sommes des centres, c'est inévitable, on parle à partir de nous-mêmes.
Oui, il faut savoir qu'on est chacun.
Il faut l'assumer, et savoir que l'autre est un centre. Donc à partir de là, on devient multipolaire comme est le monde. Maintenant, il y a plus un seul centre qui serait atlantique, mais évidemment la Chine, le Japon, mais l'Inde, l'Afrique en pleine émergence. Oui. On est dans un monde où il n'y a plus que des centres à terme. Ça, je suis optimiste.
Ça, c'est joli. Allez, on va rester là-dessus. Il n'y a plus que des centres. Ça vous va aussi, Gilles Fumet, en conclusion. Merci beaucoup à tous les deux, hein, Christian Grataloup et Gilles Fumet, d'être venus en direct décentrer donc un petit peu notre regard. Je rappelle le titre de cet étonnant atlas, donc l'Atlas global, qui vient de paraître aux éditions des Arènes. C'est un très beau livre à consommer, à feuilleter sans modération, globalement et localement. Moi, j'ai envie de dire à tous âges. Hein. Je l'ai essayé en vacances et ça marche chez les grands comme chez les
moins
grands.
En tout lieu et en tout temps.
Absolument. Merci à tous les deux.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Demain, nouvelle question inédite et assez inouïe elle aussi. Peut-on voyager dans le temps? Question que nous nous poserons sérieusement entre science et fiction tout de même avec le physicien Gabriel Chardin. À demain pour un nouveau voyage sonore dans l'espace et dans le temps avec Charles Pélabon à la réalisation et Caroline Fillette bien sûr en coulisses. D'ici là, amis auditeurs et internautes, portez-vous bien et surtout restez curieux. Merci de votre interactivité, qu'elle soit globale ou locale sur votre radio mondiale. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal.